Merci beaucoup Abdennour Bidar. Je vous rappelle que France Culture est en direct et ouvre ses programmes à la réflexion suite aux attentats de vendredi soir commis à Paris jusqu'à 20h. Pas en mon nom, hashtag pas en mon nom, un nom aux amalgames. Depuis vendredi soir, les musulmans de France et d'ailleurs envoient des messages de solidarité et se mobilisent contre l'État islamique. Mettre des mots sur nos peurs, c'est aussi l'objectif que s'est fixé l'éducation nationale et l'ensemble du corps enseignant par voie de presse ou sur Twitter. Des réponses aux questions que parents et professionnels se posent. Comment expliquer aux élèves et répondre aux inquiétudes? Éclairage tout de suite et conseils pratiques avec vous, Louise Touré. Bonsoir.
Bonsoir.
Rue des Écoles qui revient ce soir sur ce dialogue jamais évident à mener, pour reprendre les mots de la ministre de l'Éducation nationale. Pas évident à mener, mais dialogue essentiel que l'école de la République va devoir ouvrir, et ça dès demain matin.
Oui, Olivia, un dialogue et une écoute nécessaire, essentielle. C'est ce qu'on va entendre ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, l'école face aux attentats. Et nous sommes heureux d'être ensemble comme chaque semaine avec Laurence Genepin et Alexandra Malka, avec aussi notre chroniqueuse Libby Cousteau de L'Express. Vous revenez de reportage, Libby.
Bon, je reviens d'un reportage à Drancy.
Et vous allez nous raconter cela. À la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontani. Pour dialoguer avec nous sur Twitter, chers auditeurs, utilisez simplement le hashtag RDE. Nous vous répondrons.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
Au sommaire de cette émission, un seul sujet, donc l'école face aux attentats. L'école après ces attentats qui ont frappé Paris hier, Paris et le Stade de France. L'école est au cœur de notre projet républicain, c'est l'histoire de France qui nous l'apprend, mais aussi le présent, quand dans des moments dramatiques et douloureux, les regards se tournent vers l'éducation nationale et ses enseignants. Que dire aux enfants? Que dire à nos enfants? Dans nos écoles, j'ai été frappée dès la nuit de vendredi de voir que des enseignants ont commencé à s'interroger tout de suite, publiquement. Qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous faire lundi matin? Des enseignants qui partageaient leurs idées, des ressources sur la question. Il y a même eu un mot-clé, une balise, un hashtag, un nom un peu bizarre, un peu choquant. Éduc, attentat. Voilà où nous en sommes. Alors des réponses ont été données, des éléments de réponse dans la presse. Le café pédagogique a réagi très promptement. Il y a aussi eu les cahiers pédagogiques aujourd'hui et bien sûr le ministère de l'Éducation qui a rendu public hier un ensemble de recommandations. Vous le savez, le plan Vigipirate est renforcé. Il l'était déjà, hélas. Alors, plus de sorties ni de voyages scolaires jusqu'au 22 novembre. Des cellules psychologiques mises à disposition des établissements. Les formations aussi sont annulées cette semaine pour qu'un maximum d'adultes soient présents dans les établissements. Une minute de silence demain. Des ressources pédagogiques et un appel au dialogue et à l'écoute. On va en parler avec tous nos invités. J'ai tenu à ce qu'ils soient nombreux aujourd'hui, puisque ici aussi nous allons dialoguer et nous écouter. Je vais commencer avec les enseignantes. Aude de Lombarès, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez le français au collège Jean Massé de Clichy-la-Garenne. Julie Van Dreckem, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez-vous au collège de Garges-lès-Gonesse dans le Val d'Oise. Alors c'est vous qui avez commencé à publier des recommandations sur Twitter cette nuit.
Alors des idées, plus que des recommandations. Des idées. C'était donc la nuit dernière, il y a le vendredi à samedi soir, oui.
Il y avait une urgence pour vous en tant qu'enseignante à vous exprimer publiquement?
Alors non, c'est venu plutôt des followers, donc des gens qui me suivent sur Twitter, des mamans, des papas qui lançaient des bouteilles à la mer en disant « mais qu'est-ce que je vais dire à mes enfants demain matin ?» Et je me suis dit « ça c'est exactement la question que se posent mes collègues et moi-même, qu'est-ce qu'on va dire aux élèves lundi ?» Et finalement, j'ai commencé à tweeter, j'ai fait 9 tweets et quand j'ai vu à quel point ils avaient été retweetés, je me suis dit « ok, là on a un besoin ». Quel mot mettre? quel pourquoi mettre. Et c'est d'abord nous, en tant qu'adultes, être au clair avec nos émotions et avec les mots qu'on emploie, avec ce qu'on veut dire. Et ensuite accueillir les élèves ou les enfants et parler avec eux, mais en étant nous-mêmes clairs là-dessus, avant.
Et de nous voir hein, pour de vrai dans la vie réelle, dans les établissements demain matin. J'ai noté que la ministre de l'Éducation nationale demandait aussi aux enseignants de prendre du temps pour dialoguer avec les familles. Angèle Sourd, vous êtes également enseignante.
Bonjour.
Vous êtes également chercheur au CRI. Il faut redire en France que ce dialogue avec les parents est important et surtout dans ce genre de moment.
Le dialogue avec les parents, avec la communauté éducative dans son ensemble. Parce qu'il y a dans les écoles, il y a d'autres adultes que les enseignants et les enfants. Et, enfin, non, ils ne sont pas des adultes et les parents.
Merci. Alors Jean-Marc Mériot, bonjour.
Bonjour.
Vous ne représentez pas l'éducation nationale, vous représentez Canopée. Et vous, vous mettez en ligne des ressources.
Oui, alors...
La communauté éducative, plutôt les enseignants, mais pas seulement.
Oui, on est amené, bien évidemment, à accompagner la communauté éducative dans ce qu'est dans l'ensemble de production de ressources et de mise à disposition aussi d'un certain nombre de services pour les accompagner dans leur pratique pédagogique. Bien évidemment, on est touché par ce qui se passe en ce moment et on est en train de construire un certain nombre de ressources. Mais je pense qu'il y aura un temps, il y a le temps de la réaction qui est celui de demain, et puis il y a un temps qui sera aussi un temps un peu plus long sur lequel il va falloir aussi qu'on imagine des ressources, ce travail qu'on a bien évidemment commencé à faire depuis de longues semaines, mais qui prend du temps parce qu'il faut mettre les bons mots sur les bons problèmes. Et c'est vrai que c'est un travail délicat et qui n'est pas des plus simples.
Ben on va essayer de mesurer le travail qui vous attend et qui attend les enseignants, et pas seulement les enseignants. Et j'ai tenu à ce que des intervenants extérieurs viennent aussi parler avec nous aujourd'hui. Ilan Sialom, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président d'une association qui s'appelle Coexister, qui est un mouvement interreligieux, mais pas seulement interreligieux, qui réunit les bonnes volontés. Vous intervenez dans les écoles depuis quelques mois.
On intervient dans les écoles depuis 6 ans, en tant qu'association qui lutte contre les préjugés, qui essaye de parler du fait religieux aussi dans les écoles. Et à ce titre-là, nous sommes amenés à intervenir très 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 régulièrement depuis les attentats de janvier 2015. Oui. Nous sommes intervenus plus d'une fois par jour, près de 300 fois donc au total depuis le début de l'année, et ça ne va qu'en grandissant. Donc il y a un besoin, si vous voulez, d'avoir un acteur tiers, une des associations qui permettent aussi de poser les mots, les bons mots, j'entends ce que vous disiez tout à l'heure, et qui après la réaction, et c'est ce qu'on va voir demain, peut aussi construire des activités à moyen terme et dans lesquelles on puisse mettre les bons mots, parce que comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de mettre les bons mots avec toute la communauté pédagogique.
Et tout le monde acquiesce autour de la table. Avec nous également Agnès Florin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au téléphone depuis Nantes, vous êtes professeur en psychologie de l'enfant et de l'éducation. Si je vous ai appelé, c'est parce que voilà, vous avez déjà été invité dans Rue des Écoles. J'ai lu votre interview dans le Café Pédagogique hier et vous avez été la première à dire cette chose très importante. Lundi matin, il va falloir privilégier l'écoute.
Oui, absolument. Le premier temps, c'est l'écoute des enfants, leur laisser la possibilité de s'exprimer, ne pas les y obliger, et quel que soit l'âge, dès l'école maternelle, parce que les enfants vont arriver avec des niveaux d'information très variables, avec des émotions très diverses. Ils auront même été abreuvés pour certains d'images de télévision en continu. Ils auront senti l'inquiétude, l'angoisse. Ils auront entendu les mots des parents ou pas. Et avec ces niveaux d'émotion et d'information très diverses, il va falloir construire quelque chose. Et c'est vrai que pour moi, l'école est aussi une forme de soin pour les enfants, dans la mesure où elle leur permet de s'exprimer et où elle va aussi informer, écouter ce qui est dit, corriger des informations qui seraient erronées, Et puis, elle va être aussi une base de sécurité dans la mesure où elle va ramener les enfants vers la vie normale à l'école, avec ces différents temps où on s'exprime d'abord et puis on se remet aussi dans les apprentissages. On peut s'exprimer verbalement, on peut s'exprimer par le dessin ou d'autres manières. Et puis ensuite, on peut transformer ça pour une activité de création avec, par exemple, des consignes ou des contraintes qui vont être apportées pour construire un poème ou un dessin avec tel ou tel élément ou telle technique, c'est-à-dire repartir sur les apprentissages. Mais elle assure aussi ce rôle de sécurité en rassurant. Il faut mettre des mots, comme l'ont dit déjà des invités, il faut mettre des mots sur ce qui s'est passé, des mots simples, compréhensibles par les enfants, évidemment de manière différente en maternelle. Et par ailleurs, je suis présidente de l'association de psychologie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, la PPEA.org, et nous avons aussi mis en ligne des ressources, y compris celles du ministère, et nous recevons un certain nombre de
questions. Oui, vous aussi, vous êtes très sollicité en ce moment.
Même d'enseignants de maternelle aussi.
Alors, des sollicitations à tous les niveaux scolaires. Vous disiez, il faut entendre l'angoisse des enfants, mais les adultes eux-mêmes
bien
sont
entendu,
bouleversés.
Je pense que la première étape,
faut-il le montrer?
On ne peut pas se défendre de ses émotions, mais il me semble que demain matin, lorsque les enseignants retournent à l'école, la première chose, c'est qu'ils puissent discuter entre eux, qu'ils puissent partager ses émotions, qu'ils puissent, en faisant cela, les mettre un peu à distance, de manière à être plus forts individuellement ensuite pour répondre aux enfants ou pour y répondre collectivement selon les formes qui seront choisies. Et puis il y a aussi tous ces échanges avec les parents qui le souhaitent.
On va y revenir, mais on va demander aux enseignantes, est-ce que vous ressentez ce besoin d'en parler ensemble? Alors ici, vous allez en parler entre vous, mais au sein de votre établissement Haute de Lombarès?
Il me semble que c'est primordial, mais le temps, en tout cas, nous est compté lundi, puisqu'on va arriver dans nos classes et que ce temps prévu pour parler n'est pas lui-même prévu, pour le coup. Pardon, je m'exprime mal. Donc, on trouvera le temps d'en parler, sans doute, à la récréation du matin. Mais ça va se faire un peu à la va-vite, ça, pour le coup. Donc, je pense que chacun réfléchit ce week-end de son côté à ce qu'il va pouvoir faire. Et que le temps de discussion nécessaire entre collègues se fera plus tard.
Julie Van Reckham, vous avez aussi besoin de collectif en ce moment?
Oui, tout à fait. Et je pense que je suis dans un établissement dont l'équipe est particulièrement précieuse et je les salue ici, le collège Henri Matisse de Garges-lès-Gonesse. L'échange de SMS, l'échange sur Facebook, notre chef d'établissement qui nous envoie un mail collectif, ça c'est précieux. Parce qu'on sait que si l'un de nous craque, on peut le dire. Parce qu'on s'est envoyé des messages en disant « Toi, est-ce que ça va ?» Non, ça va pas. Bon, écoute, prends du temps pour toi, tout le temps qu'il faut. Ça, j'ai mis des choses sur Twitter et beaucoup d'enseignants m'ont remonté le fait qu'ils souffraient du fait que leur équipe n'avait pas, il n'y avait pas eu de mail collectif, il n'y avait pas eu de nouvelles, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont arriver en salle des profs lundi matin et découvrir que certains ont perdu quelqu'un. Ou que peut-être certains ne reviendront plus en salle des profs. Ça, c'est important qu'on ait ce genre de collectif avant, en amont. On ne peut pas gérer, j'aime pas le mot gérer, mais c'est un peu ça. Là, on va être face à 25, 35 élèves parfois en lycée, qui ont chacun un parcours, une histoire, un week-end et des émotions. Si nous, on ne sait pas comment notre équipe est, comment on va se soutenir les uns les autres, comment on va faire appel à la vie scolaire s'il y en a un de nous qui craque, parce qu'on peut craquer. Et ce qui est dommage, c'est que c'était la première leçon lors des attentats de janvier. Beaucoup de professeurs, et je ne vais pas dire tous, mais beaucoup de professeurs ont dit on n'a pas pu se parler. On est arrivé face aux classes, on a été mis devant les élèves, on savait pas où on en était. En tant qu'adulte, on a besoin de pouvoir se parler entre adultes. peut-être faire des blagues un peu vaseuses pour lâcher la pression, comme on a commencé à le faire samedi, de se dire bon allez, je vais me manger un bon truc, on va boire un coup, etc. Mais juste de se dire allez, on se motive, on va aller voir et on est tous ensemble. Et ça, pour écouter les élèves, il faut que nous, on ait été écoutés.
Que l'école fasse un peu communauté et
complètement.
Bloc établissement par établissement, Haute de Lombarès et puis Jean-Sourd.
Malheureusement, les attentats de janvier nous ont appris aussi à se serrer les coudes. Et c'est vrai qu'on a énormément parlé entre nous. Parfois, ça s'est fait très brutalement parce qu'il y a des choses qui sont sorties comme ça, justement parce qu'il n'y avait pas tant de concertation prévue pour cela. Mais je pense qu'on va vite retrouver cette cohésion qui est là, elle existe.
Alors, j'ajoute que certains établissements ont prévu des moments collectifs, mais pas tous. Ange Ensourd.
La seule chose que je dis, les enseignants dans leur immense majorité communiquent, même s'ils ne sont pas présents dans l'établissement, par SMS, par mail, même si le chef d'établissement ne prend pas l'initiative, il se forme des sous-groupes. Mais là, on est confronté au cas classique où l'école est projetée violemment dans le monde. Et on ne peut pas planifier une séquence de leçons, on ne peut pas planifier une concertation de profs, on ne peut pas. Il faut y aller et il faut qu'on extrait de nous-mêmes, dans notre bibliothèque mentale, affective et intellectuelle, les ressources pour y aller sans concertation et sans préparation. Alors malheureusement, on a été préparé un petit peu depuis janvier. Et ce que je redoute, c'est que l'éventualité de la répétition n'est pas exclue.
Je vais m'arrêter sur une idée, Ange Ensourd, qu'a développée Agnès Florin. L'école est thérapeutique. Elle est thérapeutique parce que c'est un lieu de parole et elle est thérapeutique parce que c'est aussi le lieu des habitudes et de la continuité, des apprentissages qui sont déconnectés aussi de l'actualité. On avait parlé avec vous, Haute de Lombarès, de littérature au lendemain du 7 janvier. Ange Ensourd, vous avez grandi au Liban. Et vous, en tant qu'élève, vous avez connu une forme de violence presque quotidienne.
Oui, quotidienne. J'ai grandi à Beyrouth, mon enfance et mon adolescence. J'étais à l'école française, d'un milieu relativement privilégié. Néanmoins, cette école était un lieu du bonheur. Je n'ai jamais eu une année scolaire normale, jamais. Néanmoins, aller à l'école, c'était le moment où on pouvait se débarrasser de la tension. On n'en parlait absolument pas à l'école. C'était un lieu de coexistence. J'étais à Beyrouth Ouest, je crois l'endroit le plus dangereux de la planète pendant une quinzaine d'années. Et néanmoins, c'était une école multiconfessionnelle. On n'amenait pas la guerre à l'intérieur. On y arrivait et on vivait le bonheur d'apprendre. J'étais dans un lycée français, donc je faisais le programme français, tout ce qu'il y a de plus banal. Et c'était un bonheur sans nom.
C'est peut-être important aussi de dire que cette continuité là des apprentissages, alors l'école n'est pas un sanctuaire, absolument pas, mais cette idée qu'on peut aussi s'y extraire du monde et de sa violence.
Il faut se préparer à toutes les éventualités demain matin, c'est-à-dire des professeurs qui n'arriveront peut-être pas à parler à leurs élèves et qui peuvent dire « là, pour l'instant, je ne peux pas en parler, on passe à autre chose ou on passe et on reviendra là-dessus peut-être dans quelques jours ». Et puis aussi des élèves qui disent « Madame, ça fait 2 jours qu'on en parle à la maison, est-ce qu'on pourrait avancer, faire autre chose ?» Juste pour, on va dire, revenir à la normalité, et ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas. On peut tout à fait différer un petit peu, 3-4 jours, ou peut-être la semaine prochaine. On aura plus d'informations, on pourra faire un travail plus approfondi sur les faits, parce que tout aura été un peu plus vérifié. On sera un peu moins dans l'émotion, et effectivement, on retourne là, peut-être demain matin, pour certains, ou demain après-midi, aux apprentissages, et puis on reprend la normalité. Et ça peut faire du bien à tout le monde aussi.
Alors comme il va quand même falloir en parler, on a besoin de ressources, les enseignants ont besoin de ressources. Le ministère a mis en ligne une sorte de vade-mecum, d'attitude et de choses qu'on peut éventuellement dire. Ça peut aider les enseignants. Il y a des fiches pédagogiques, pas énormément, mais il y en a. Et puis il y a ces intervenants extérieurs comme vous, Ilham Sialom. En tant qu'associatif, qu'est-ce que vous apportez aux enseignants ?
Je pense déjà qu'il faut dire que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. C'est-à-dire que si les enseignants ont commencé à en parler, ils vont être confrontés demain dans leur classe à différentes questions. Il y aura peut-être effectivement des moments peut-être pour différer ces différents questionnements. Mais ce qu'on apporte concrètement, c'est une possibilité d'avoir un regard extérieur, de donner un espace de débat où le professeur est aussi là pour regarder sa classe avec un autre prisme et de dire voilà, on ouvre le débat, rien n'est tabou. Si vous n'osez peut-être pas le faire avec vos classes, nous on est capable de le faire et on osera complètement le faire avec notre diversité.
Qu'est-ce qui peut être tabou et en classe et qui ne le serait pas avec vous?
Ça peut être la question, on a sorti un livre il y a quelques semaines de cela sur l'après-Charlie, 20 questions pour en débattre sans tabou, et se poser la question finalement de la liberté, la sécurité, qu'est-ce qui relève de la liberté d'expression, est-ce qu'on peut tout dire et je pense que faire appel à des tiers, et en l'occurrence ici Coexister, mais on n'est pas les seuls, hein, je salue aussi Enquête, qui travaille en école primaire, je pense que c'est vraiment, on peut tout à fait libérer la parole des élèves, parce qu'ils sont face à eux, notamment ils ont des jeunes face à eux, on est une association qui prend les 16-35 ans, et donc ça permet tout à fait de valoriser cela. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais peut-être revenir de petites minutes aussi, c'est que malheureusement on a eu un brouillon, entre guillemets, ou alors on a eu les janvier 2015, on a déjà commencé ce travail en école, et on s'est focalisé sur la minute de silence. Est-ce que il y a une minute de silence? Est-ce que certains l'ont fait?
J'allais aborder la question, il y a une minute de silence demain, et hélas, mais une partie de la presse va guetter
justement je pense que le problème, c'est que si on se focalise sur la minute de silence et sur son respect ou sur son non-respect, on passe à côté de l'essentiel, à savoir mettre en place véritablement un espace sécurisé pour libérer la parole de l'élève. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental pour susciter aussi des vocations.
La parole plus importante que
tout
le silence.
Tout à fait.
On a deux enseignantes qui font oui, oui, oui sur leur siège, ah oui. sans le dire trop fort. Vos micros sont ouverts.
Oui, surtout, il ne faut pas empêcher les enfants de parler. Si jamais quelques élèves devaient dire des choses qu'on n'était pas préparé à entendre, mais je ne pense pas, je suis confiante. Je crois vraiment que lundi, les élèves ne diront pas ce qu'ils ont pu dire en janvier. Enfin, j'ai pu avoir quelques aperçus déjà de leur réaction.
On va y revenir.
Mais il faut les laisser parler. Voilà,
on va revenir aussi aux ressources avec Jean-Marc Merlin.
Alors, je pense que, on est coéditeur de l'après Charlie, donc c'est un outil qui est présent
chez Canopé, le site de ressources pédagogiques.
Donc, on a été coéditeur avec les éditions de l'atelier de cet ouvrage qu'on a mis à disposition dans chaque lycée aussi. Donc, chaque lycée a son ouvrage à disposition dans le CDI pour nous permettre justement, avec du recul, parce que je pense qu'aujourd'hui, la ressource, elle se construit en plusieurs temps. Et quand on disait tout à l'heure, il faut donner du temps. Il faut redonner du temps. L'école permet de redonner du temps. C'est un autre rapport au temps. Je pense que cette question autour de la ressource, elle est aussi centrale. C'est-à-dire que nous, par exemple, on travaille depuis plusieurs semaines sur une offre autour des valeurs de la République. On prend le temps aussi pour bien travailler ces valeurs.
Du temps, mais c'est demain matin
On va en faire un abstract. On sera en mesure d'ici ce soir de proposer un certain nombre de contenus sur les valeurs de la République. Mais derrière tout ça, on va être amené aussi, bien évidemment, à aller encore plus loin. On avait prévu de le faire dans les prochains jours. Ça continuera à l'être, bien évidemment, puisqu'il faut continuer. Il faut qu'on soit en mesure d'assurer ce continuum. Et je pense que là-dessus, les ressources sont aussi un point d'ancrage pour l'ensemble de la communauté absolument essentiel.
Et comme on parle de ressources, c'est aussi de la remédiation, c'est-à-dire par rapport aux enseignants qui vont utiliser des ressources, qui vont en créer, qui vont tenter des choses, il faut mutualiser, il faut raconter, il faut dire. Voilà, et de dire, ça a bien marché avec tel type de classe, ça n'a pas marché. Moi, je sais que je vais travailler avec des cartes mentales parce que j'adore ça, mais je me dis, peut-être que je vais laisser la production, ça va être plutôt aux élèves de dire, la carte mentale qu'on a faite ensemble, ensemble avec des faits bien précis, vous pouvez rédiger un texte ou bien faire un dessin à partir de ça, peut-être laisser cette liberté et de dire peut-être dans quelques jours, ça n'a pas du tout fonctionné avec telle classe, avec telle autre, oui, pourquoi? Et au moins d'autres enseignants pourront s'emparer de ce que j'ai fait.
Voilà, il y a une sous-question, c'est pourquoi en fait les partages de cours, de ressources entre enseignants sont sur des sites spécifiques, assez dispersés et pas chez vous à Canopé. Mais ça ferait peut-être l'objet d'une autre émission. J'ai entendu un mot qui me donne envie de passer la parole à Agnès Lerin, puisque vous êtes psychologue. Pas de tabou, c'est bien ce mot-là sur lequel je m'arrête, pas de tabou à l'école, on peut aborder toutes les questions, c'est quelque chose que vous conseillez
Oui et non, parce que...
Ouais, c'est plus compliqué que ça.
Bah, c'est plus compliqué que ça, dans la mesure où il faut être en mesure de répondre sur ces tabous. Il suffit pas de
libérer la parole.
Il suffit pas de la libérer. Elle est libérée aussi devant tous les autres enfants. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour les autres? On peut imaginer que tel ou tel enfant en difficulté fasse preuve de discours agressifs, injurieux, etc., xénophobes et autres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on peut le prendre en charge dans la classe? Je crois qu'il peut arriver aussi que des propos soient tenus et soient inacceptables.
Justement,
parce que tombe sous le coup de la loi. Et à ce moment-là.
Et à ce moment-là, comment réagir?
Ben, il ne s'agit pas de punir, il s'agit de pouvoir aussi en parler peut-être avec les parents de l'enfant et voir s'il y a pour cet enfant un mal-être qui peut justifier une prise en charge de type médico-psychologique d'abord à partir de l'école.
Les enseignantes,
il y a des étapes, on va dire. J'en ai beaucoup parlé au moment des attentats de janvier. La parole des élèves en classe, elle est, on va dire, libérée parce que c'est un cadre protecteur. Ça, c'est précieux. À partir de là, les élèves, effectivement, ce sont des adolescents. Il y en a qui vont provoquer, il y en a qui vont dire des choses un petit peu violentes, il y en a qui les pensent, ces choses éventuellement. C'est notre travail en tant qu'enseignant d'être capable d'encadrer cette parole et de la ramener à des choses telles que la loi, en disant, tu as exprimé ça, déjà, qu'est-ce que tu voulais dire avec ça, avec ces mots-là? Et souvent, on va se rendre compte que les mots utilisés n'étaient peut-être pas les bons ou la définition n'était pas correcte pour l'élève. Donc, de recadrer cette parole, de l'encadrer en disant, eh bien ça, dans contexte français, nous n'avons pas le droit de le dire, tu n'as pas le droit de le dire parce que la loi dit ça. Je pense à des propos antisémites.
Alors, il y a un rappel sur le site EduSchool du ministère. Il y a un rappel sur ce qu'un enseignant doit dire des propos.
Et c'est là que ça permet de déminer aussi tout la liberté, le travail sur la liberté d'expression. Oui, mais vous me laissez pas dire ce que je veux, etc. Oui, mais il y a la loi. Et là, l'élève a pu dire et on l'a recadré. Et c'est notre travail, je pense.
Alors, Angèle Sourd, Aude de Lombaras ensuite.
Une remarque, on a parlé tout à l'heure de l'école comme ça, qui ne doit pas être un sanctuaire, d'accord? L'école ne doit pas être un sanctuaire, en revanche, la classe est un sanctuaire de confiance entre l'enseignant et son élève.
C'est ça le sens du mot sanctuaire. Agnès Fleurin, vous vouliez quand même répondre.
Oui, je disais bien entendu, je partage tout à fait ce point de vue, à condition que les enseignants soient effectivement tous face à cette situation-là, en mesure de faire ce recadrage. En quelque
sorte. Donc ça veut dire aussi, enseignants, préparez-vous.
Voilà, de répondre à la provocation.
De Lombarès,
il faut d'autant plus être préparé.
Dans un cadre sécurisant, on est bien d'accord. On est bien d'accord, mais ça n'est pas toujours possible. Ça n'est pas toujours possible, mais quelquefois, ça peut aussi être le signe d'autres types de difficultés qui peuvent nécessiter une autre forme de prise en charge pour cet enfant-là que uniquement le cadre sécurisant de la classe.
Et c'est quelque chose qu'il faut savoir évaluer, si je vous suis bien, Aude de Lombarès.
Oui, il faut d'autant plus se préparer que parfois on entend des choses vraiment difficiles. Bon, moi, j'ai un élève qui m'a dit des propos antisémites et je lui ai demandé pourquoi il disait ça. Il me dit, mais parce que ces gens-là sont méchants et ils enterrent des bébés vivants. Je dis, pardon, pourquoi tu dis ça? Donc, il m'a parlé d'une vidéo qu'il avait vue, d'enfant. Et là, c'est très important, en fait, parce qu'on comprend ce qu'il voit. On peut en parler, on peut déconstruire. On sait qu'ensuite, il y a un travail à faire sur l'image, sur les réseaux sociaux.
Et sur les médias.
Au cœur de notre métier. Voilà.
S'ils ne le disent pas, on ne peut pas travailler là-dessus.
Lily Cousteau.
Je voudrais poser une question aux enseignants qui sont là, parce qu'en fait, moi, il me semble, avec les enseignants avec qui j'ai pu parler depuis hier entière, que c'est assez différent, en fait, ce qui s'est passé, et qu'il ne faudrait pas, je ne donne aucun, évidemment, conseil d'aucun ordre, qu'on soit trop dans l'après Charlie qui a traumatisé les enseignants à juste titre, mais qu'en fait, il va s'agir d'autre chose demain.
Ça peut remonter également,
mais je pense qu'il y aura aussi autre chose. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais il y aura peut-être des choses assez différentes.
Totalement. Et là, on est face à, pour moi, à deux situations différentes. Les professeurs ne feront pas l'amalgame. Les élèves feront des liens. Mmh. Par contre, en 11 mois, on a eu deux attentats. Pour des élèves, c'est très rapproché. Ils vont nous dire, mais il y a tout le temps des attentats. Ils vont faire des liens. Ils vont nous reparler de Charlie. Donc, il va falloir se préparer à ça. Mais nous, en travaillant justement des faits très concrets, qui sont les victimes cette fois? Est-ce que les victimes sont des cibles, des personnes ciblées? Non. Il y a une lettre de Lassana Diarra également, le joueur de football qui a perdu sa cousine. Oui. Ça montre que des personnes que les élèves peuvent admirer. C'est et c'est également un stade où il y avait un match de foot. Nos élèves sont souvent fans de foot. Eux auraient pu, ou des amis auraient pu être touchés. Des gens
c'est
qui
donc
vont
plus anxiogène presque.
Plus anxiogène.
Oui, différemment, tout cela les rassurer.
Voilà.
Ils ont peur et ils sont tristes en ce moment. C'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils échangent, c'est ça. C'est
exactement. On va moins avoir à déminer peut-être des thèmes liés aux valeurs que simplement une anxiété. Est-ce que ça peut m'arriver à moi demain dans mon collège? En gros, c'est ça.
Les réseaux sociaux et l'information, on y revient dans un instant. Libye, vous avez travaillé comme nous tous tout le week-end. Vous prépariez donc le numéro spécial de l'Express qui sort demain et vous étiez en reportage ce matin.
Voilà, j'étais en reportage, pas dans une classe, j'étais dans un marché, non pas pour voir des profs, mais j'ai rencontré une enseignante à travers ma balade dans ce marché. J'étais à Drancy, donc au marché couvert de Drancy, et donc je me suis un petit peu arrêtée, évidemment, parce que j'ai une petite faiblesse pour le sujet, pour comprendre voilà comment elle appréhendait la journée de demain. Alors c'est une enseignante qui est enseignante dans un collège à Aubervilliers, donc classée en REP+, une enseignante de SDT.
Éducation prioritaire.
Voilà, et alors ce qu'elle appréhende le plus, c'est l'amalgame en fait, hein, mais l'amalgame la peur de l'amalgame de la part des élèves, parce qu'elle a 70 à 80%, dit-elle, enfin elle les a pas comptés bien sûr, d'enfants d'origine musulmane, et elle dit, ils vont avoir peur d'être amalgamés aux terroristes, et leur peur de demain c'est ça, et moi ce que je dois faire, c'est déminer ça, c'est-à-dire les rassurer, les calmer, et surtout dédramatiser, parce que si, me dit-elle, on rentre dans ce jeu-là, on fait le jeu des terroristes, si ils ont peur. Donc la première chose pour elle, qui lui semble, elle ne sait pas comment elle va faire, mais ce qui lui semble le plus important, c'est de abaisser le soufflet, quoi, essayer de dédramatiser, sans banaliser, et surtout de dénouer les liens de la pelote qui pourrait se nouer à partir de ça.
C'est une des questions les plus compliquées. Hein,
voit juste qu'à nouveau, finalement, le problème n'est pas à l'école.
Julie Van Rekem.
Le problème n'est pas l'école. Le problème de l'amalgame se fera ailleurs qu'à l'école, à nouveau. Voilà.
C'est un problème de vocabulaire aussi. Hein. Oui. Islamiste, pour eux, c'est toujours musulman. Les frères musulmans, c'est les musulmans. Moi, je vois ce qui circule, c'est des vrais quiproquos dus à des mots mal compris. Je ne sais pas comment on peut faire pour qu'ils comprennent une fois pour toutes le sens des mots. Peut-être que les médias nous aident.
Mais pas que les élèves.
Mais oui,
les adultes. Surtout les adultes.
Islamiste, pour eux, c'est musulman. Je l'ai appris à mes troisièmes vendredi que ce n'était pas ça. Heureusement.
Troisième.
Mes troisièmes, vendredi.
Troisième. Ouais. Anna Haute de Lombarès, professeure au collège. Jean-Marc Mériot, Canopé.
Sur les questions et sur ces questions-là, il y a des contenus quand même qui sont faits par la presse jeunesse, qui sont aussi très très bien faits. Sûrement pour des...
Oui, alors Mon Petit Quotidien sort une édition spéciale ce soir.
Mon Petit Quotidien sort une édition spéciale ce soir. Un jour, une actu fait absolument, je vous conseille d'aller voir l'ensemble des vidéos qui sont faites, et même pour des collégiens, à un moment donné, c'est très bien fait. Et très synthétique, mais qui repose sur des faits historiques, sur une histoire, sur tout ce qui va, parce que c'est aussi ce travail-là qui doit être fait au sein des classes et à travers des ressources qui sont liées aussi au programme. Je pense que c'est important de ramener ça aussi au niveau des programmes et des ressources que vous avez aussi dans vos programmes, parce que ça fait le lien aussi réellement avec toute cette continuité et toute cette nécessité de continuer à avancer. Et le programme nous permet aussi d'être dans cette logique-là.
Ilan Sialom. On va prendre des notes, mais sur cette question d'amalgame précisément.
Sur cette question d'amalgame, c'est vraiment au cœur de la sensibilisation de Coexité, puisqu'on travaille, on a plusieurs types d'activités, et qu'on est vraiment focalisé sur la lutte contre les préjugés. Comment ? En intervenant avec une diversité. C'est-à-dire que Coexisté assume totalement la diversité de convictions, la diversité de religions, c'est vraiment l'ADN de Coexisté. Et lorsqu'on intervient en école, on vient tel qu'on est. j'ai pas de soucis à intervenir quand je suis en école publique ou en école privée, à dire que voilà, je m'appelle Ilan et je suis juif. Tout comme on fait venir très souvent des filles qui sont des musulmanes voilées ou non voilées. Et le fait d'avoir cette diversité face aux élèves, le fait de pouvoir pour certains s'identifier aussi de par la conviction, ça permet de créer une sorte de confiance. Elle est éphémère, elle a lieu pendant le temps d'activité, et ça permet peut-être de susciter aussi des vocations, de se saisir de ce sujet pour ensuite aller travailler dans sa rue, dans son quartier, dans sa ville. Donc vraiment, on est formé là-dessus. On a développé des techniques d'activité au niveau informel et au niveau formel. Et surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi extrêmement important. On parlait tout à l'heure du support de l'après Charlie de ce livre qui est dans toutes les collèges et les lycées de France. Je pense que à travers les attentats qui ont lieu depuis maintenant 3 ans, on a eu une diversité de cibles. C'est-à-dire qu'on a vu la liberté d'expression avec Charlie, on a vu la diversité de l'école avec Toulouse, avec l'hypercachère, on a vu le sport, la musique avec le Stade de France, avec le Bataclan, les loisirs avec les cafés. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de, par les actions qu'on met en place, à démultiplier les supports, à essayer de jouer là-dessus pour montrer précisément qu'on est toujours debout dans l'unité, mais aussi dans la diversité de paroles. Et je répète encore ce qu'on disait tout à l'heure, il faut trouver des espaces de sécurisés, que l'école devienne vraiment sécurisée. On parlait de sanctuaire, je pense que le sanctuaire est un petit peu compliqué aujourd'hui, parce qu'on est dans l'hypercommunication, on est constamment sur les réseaux sociaux, et les élèves le sont aussi. Donc il y a vraiment une frontière symbolique qui s'est cassée. Et donc je pense qu'il faut véritablement se lancer dans ce débat à corps perdu, avec les différents supports qui sont à notre disposition, et il y en a beaucoup.
Jean Sourd, c'est le cœur du travail de l'école que d'aider les élèves à ne pas faire d'amalgame, le sens des mots, la précision presque scientifique, quand on aborde une information, une connaissance, ce que ne font pas les adultes par ailleurs, forcément.
Il me semble que c'est ce que nous faisons tous dans les classes, c'est le passage du français commun au français notionnel. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui s'appelle l'islam politique, il y a une notion dans cet islam politique qui s'appelle l'islamisme, il y a une notion religieuse qui est une religion, et c'est un travail que nous faisons au quotidien d'apprendre à manipuler des concepts. Parce que ce sont des concepts et c'est le travail de l'école de l'apprendre.
On peut dire ça à l'école élémentaire ?
Oui, on peut le dire. On le fait au quotidien, les profs, avec d'autres mots. Ils ne vont pas dire le mot concept aux enfants, mais ils vont leur apprendre que ce terme-là désigne une réalité, une conviction, une idéologie. Ce ne sont pas les mêmes choses et on peut le comprendre. La chose à laquelle je veux revenir par rapport à ces amalgames, apprendre à parler, lorsque en janvier, on pouvait identifier, c'était la liberté d'expression, une partie de la population. Aujourd'hui, quelque part, on n'aura peut-être pas les mêmes amalgames, mais ça va être plus brutal, c'est plus violent. Quel type d'amalgame ? Les enfants ont entendu un mot très violent depuis vendredi, c'est le mot « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre contre qui ? Où ? Comment ? On va, là, à l'école, et nous, tous, on va à nouveau reprendre l'idée de ce que c'est l'école. C'est une parcelle de la République qui est présente face à tous les élèves. C'est ce lien que nous l'avons amnésié dernièrement. Et demain, dans les classes, il va falloir inventer la manière de le réactiver, de le réanimer, de le réincarner. L'école de la République, demain, est là, parce que c'est diffus.
Et le réincarner en tant qu'enseignant.
Bien sûr, sans pour autant revenir au
Husserl. On personnifie cette idée.
Tout à fait. Je pense qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on ne peut pas, cette fois-ci, se cacher derrière un paravent, que ce soit les élèves, les élèves. Ah, c'était les journalistes. Ah, c'était les juifs. Non, là, c'est tout un chacun. Nous tous. Et c'est très anxiogène et ça nous met encore plus face aux fondamentaux, beaucoup plus.
Agnès Florin, parce que je voudrais vous réentendre en tant que psychologue, et vous travaillez sur la question de l'école maternelle, des apprentissages aux tout petits, l'importance du langage, les mots. C'est plus difficile quand on s'adresse à des enfants d'école maternelle, de dénouer les fils pour qu'ils ne fassent pas d'amalgame. On disait la notion de concept, le français notionnel, c'est déjà un petit peu compliqué à l'école élémentaire. Comment on parle à des petits entre 3 et 6 ans ?
Entre 3 et 6 ans, on utilise des mots qu'ils peuvent connaître, comprendre, des mots simples. Les personnes qui ont été blessées, tuées, on peut les désigner, on peut dire que ce sont des adultes, que ce sont des hommes, des femmes, etc. Le terme de guerre
est utilisé par les médias depuis vendredi.
Voilà, donc
des médias.
Il n'a pas forcément le même sens pour des enfants et pour des adultes. C'est peut-être un terme qu'ils comprennent mieux que le terme d'attentat, par exemple. Hein, je parle des tout petits. Peu importe, on peut reprendre les termes des enfants et les expliciter. On peut parler de la peur, de la terreur, et rappeler, là je rejoins ce qui a été dit par d'autres intervenants, rappeler le rôle protecteur des institutions et des adultes présents dans ces institutions, donc notamment les enseignants, mais rappeler que il s'est passé des choses graves qu'on nomme, on les situe, on dit où ça s'est passé. Si c'est loin de chez nous, si c'est pas très loin de chez nous, et on rappelle que oui, il y a des institutions qui sont là pour protéger tout le monde et protéger les enfants et qui sont au travail. Alors on peut citer les policiers pour les jeunes enfants, on peut citer l'école, on peut citer les responsables du pays, etc. Et je crois que en repartant sur le fait de dénommer dans des termes familiers les choses, en mettant des mots sur ce qui s'est passé, une fois l'expression des émotions de chacun, alors on peut reconstruire et on peut montrer que oui, l'école est là aussi pour protéger, comme les parents sont là aussi pour protéger les enfants et les jeunes enfants. Ça, c'est vraiment important, pouvoir s'exprimer, pouvoir informer et pouvoir rassurer. Et ça, ça passe aussi par la reprise des activités. Et en même temps, ça a été évoqué au début.
Comme nous l'avons dit au début.
Tout le monde ne va pas souhaiter pouvoir s'exprimer dès demain. Et qu'il faudra du temps, et qu'avec le temps, on aura aussi plus d'informations, on aura plus de réflexions, de ressources, de travail collectif qui aura pu s'élaborer. Et il faudra pouvoir y revenir, peut-être pour élargir sur ce que peuvent être des événements violents.
Au rythme de l'école, au rythme de l'école qui n'est pas forcément celui de l'actualité. Ouais. Jean-Marc Mériot.
Non, je pense que
et ça peut se construire aussi avec de la littérature jeunesse, et ça peut se construire. C'est-à-dire, c'est pas uniquement des ressources spécifiques liées à ces événements. C'est cela que je voudrais dire, c'est que nous avons aussi des ressources culturelles, nous avons des chants, nous avons de la littérature jeunesse, nous avons
et la littérature tout court. Et la littérature en général.
Court, oui, mais là vous m'interrogez sur les
bien
sur
sûr. Les
sur la maternelle, donc je vous réponds là-dessus. Je vais devoir vous quitter parce que...
Eh ben merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Venir,
je sais que vous êtes très sollicité, Agnès Florin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Débat et bon courage pour affronter tout cela demain aussi.
Merci.
Alors non, je pense
Jean-Marc Mériot,
il y a une notion qui est très importante et sur laquelle nous avons été amenés aussi à travailler, qui est la notion sécurité et sûreté. C'est-à-dire que demain, il va falloir, alors peut-être pas demain justement, parce que ça, c'est des notions qui sont peut-être un peu plus compliquées à pouvoir faire passer, mais ces questions de sécurité et de sûreté sont absolument essentielles. C'est des notions qui sont très en lien avec les valeurs de la République. Il ne faut pas les oublier, parce qu'une République, elle peut exister aussi à travers son système de sécurité et cette sûreté qu'on est en mesure de pouvoir offrir à travers nos institutions. Donc cette question-là, elle va être aussi, et je pense que des contenus adaptés aussi pour aborder ces questions-là, qui sont des questions qui sont peut-être moins présentes au sein de l'école aujourd'hui, parce que c'est plus compliqué, parce que parler de sécurité, c'est pas quelque chose qu'on fait spécialement quotidiennement, et je pense que là-dessus, il y a aussi à construire des ressources très spécifiques sur ces questions-là.
Alors, pour expliquer hein, la sécurisation des établissements...
Oui, bien sûr. Le MC intègre beaucoup de ces éléments-là, bien évidemment.
Oui, et programme d'éducation civique en troisième jusqu'à cette année. Après, il y a un grand écart qu'il va falloir faire cette semaine entre les sixièmes et les troisièmes. Ouais, ceux qui ont les deux niveaux, la France est en guerre, d'accord. Où est la déclaration de guerre? Il y a une convention de Genève. Est-ce que ça
ce sont des mots des médias.
Mais totalement. Mais les élèves, la France est en guerre. Nous, on va devoir leur faire travailler ça, faire ce travail. Alors, donc décortiquer. Et avec les sixièmes, on va être dans rassurer, etc. Donc on va devoir d'un côté décortiquer et dire attention, la parole des médias n'est pas forcément la réalité. Il y a de la métaphore, il y a de l'amplification, c'est normal, mais les élèves de troisième, on va faire ce travail de décortiquage. Et les sixièmes, on va être dans un autre travail de rassurer au quotidien.
Ilan Sialom.
Alors, on a parlé de la sécurité, de la sûreté, qui n'est peut-être pas le point fondamental aujourd'hui en école et en lycée, mais peut-être que ça va
ça
se poser.
Ça va changer la vie
il
des élèves.
Que ça se pose.
Plus de sorties scolaires, plan vigipirate renforcé.
Et on a déjà des établissements, on a déjà des établissements où la question se pose déjà. Mm-hmm. Quand on prend les établissements, les écoles juives, les collèges et lycées juifs, ça fait maintenant un an qu'il y a des militaires constamment. Donc ça joue aussi dans la façon dont on perçoit l'extérieur, dont on perçoit aussi le rapport à l'autre. Et il y a tout un travail de déconstruction à se faire aussi dans le cadre de ces lycées. Aujourd'hui, la question qui se pose, tout à l'heure je parlais de la musique et du sport, comment vont se passer les sorties? Comment vont se passer les transports pour aller au stade, pour faire de l'éducation physique, pour ceux qui n'ont pas de gymnase. C'est toutes les questions qui vont impacter véritablement la vie des collégiens, des lycéens.
Toutes les questions pratiques. On sait que dans les écoles élémentaires parisiennes, eh bien, les pique-niques au printemps se sont organisés dans les cours d'école. On n'est plus sortis dans les parcs. Mais je voudrais, il nous reste une dizaine de minutes. Il faut s'arrêter sur la question des médias. Aude de Lombarès, vous avez commencé à en parler, mais il faut savoir ce que les élèves, ceux du collège, ceux du lycée, regardent, voient, comment ils s'informent, si nous sommes connectés aux médias plus traditionnels. Voilà, on peut lire le mot de guerre et puis être interrogé. Les élèves voient tout autre chose et vous allez regarder ce qu'ils lisent, ce qu'ils publient aussi.
Bah, en fait, je l'ai surtout fait au mois de janvier parce que j'étais dans un état de sidération et j'avais besoin de comprendre. Donc, j'ai vraiment regardé ce qu'ils diffusaient eux-mêmes sur les réseaux sociaux. J'en ai beaucoup parlé avec eux en classe et j'ai réalisé qu'ils ne regardaient pas du tout les mêmes médias que moi. La télé un peu, bien sûr, avec BFM, mais ça se résume à ça. Et les journaux, on n'en parle pas. La radio, ils n'écoutent pas. Voilà. Donc, c'est vraiment essentiellement les réseaux sociaux. J'ai découvert, du coup, des sites qui me font encore froid dans le dos. Je suis allée les regarder, là. Enfin, je suis pas en... J'espionne pas mes élèves, attention, loin de là, parce que j'ai eu besoin de les contacter pour leur dire que je pensais très fort à eux. Eux m'ont aussi contacté pour savoir si j'allais bien. Je parle de mes anciens élèves, parce que mes élèves actuels...
Là, vous parlez de ce week-end.
Voilà, de ce week-end. Donc, je suis vraiment... très proche d'eux en ce moment sur les réseaux sociaux. Je les vois tristes, je vois qu'ils ont peur, je vois qu'ils ont peur des amalgames, peur de mourir, tout simplement, peur de voir des gens qu'ils connaissent mourir. Mais moi, j'ai peur aussi des sites comme Quenelle Plus, de Dieudonné, j'ai peur d'Alain Soral, et ces gens-là, je les surveille, je regarde ce qu'ils écrivent. Ils me font peur, là, en ce moment aussi, parce qu'ils recommencent à parler de complot. Alors, c'est à demi-mot, comme d'habitude, c'est tout, ils sont contraires. Sauf que cette fois-ci, j'ai l'impression que les élèves ne marchent plus là-dessus. J'espère. Enfin, voilà, c'est une de mes craintes. Parce que ces gens divisent, sont dangereux.
Oui, puis je pense qu'on est dans un autre rapport aussi par rapport à l'actualité. C'est pas totalement la même situation qu'on a vécue en ce début janvier, puisque une partie des attentats de début janvier ont touché des journalistes et que c'était une autre question qui était soulevée par rapport à la liberté d'expression, par rapport à un élément... Beaucoup de choses, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là à travers le CLEMI, entre autres, en proposant un certain nombre de contenus.
Le CLEMI, c'est l'éducation aux médias.
Voilà, le centre de liaison d'éducation aux médias et d'information. Mais derrière, il est important aussi de là reposer la question de l'éducation aux médias et l'information. Pas sur ce qu'on a été amené à faire en ce début d'année, sûrement sur justement le complotisme, on est en plein dedans. Début de semaine dernière, on a fait toute une rencontre avec les journalistes de France Télévisions sur justement et des classes de collège et de lycée sur les questions du complotisme, parce qu'en effet, c'est absolument essentiel d'aborder aussi
ces
questions.
Elle émerge rapidement, cette question en classe,
complètement. Et donc, du coup, nous, là aussi, c'est un travail.
Les Illuminati, les francs-maçons, antisémitisme.
Ils croient encore que Charlie Hebdo, pour certains, c'était un complot. Hein.
Mais ça, on parle bien jusqu'à vendredi. On va voir demain. On ne sait pas ce qu'ont dit les élèves. On est en train de parler à leur place. On verra demain s'il y a des complots dans leur tête ou pas, s'ils y pensent ou quoi que ce soit. À mon avis, non, parce que là, on est vraiment, comme on disait, dans une situation anxiogène, généralisée. Tout un chacun a été touché et aurait pu être touché. Voilà.
Ilan Sialom, et puis une question d'Ibi Cousteau.
Il y a une notion qui a été abordée tout à l'heure, c'est la question de la guerre. Il y a un des mots qui ont été des mots très forts qui ont été employés par le président de la République, c'est la guerre. J'observe malgré tout que le continent européen, à l'exception de l'ex-Yougoslavie, n'a pas connu de guerre depuis bien longtemps. Comment justement, peut-être, c'est une question qui se pose aussi pour demain, c'est comment les enseignants vont eux-mêmes parler de la guerre. On l'aborde dans les livres d'histoire et de géographie, on l'aborde sous différents textes, œuvres philosophiques, mais la guerre en soi, aucun de nous, enfin je pense, à part vous avez vécu au Liban, mais à part cela, personne n'a vécu la guerre aujourd'hui. C'est un mot qui ressurgit soudainement, et qui n'est pas de l'ordre du temps historique, mais qui en est dans l'actualité. Comment, alors que ça arrive sur notre territoire, comment on va le vivre et comment on va le transmettre à nos élèves, nous qui ne le connaissons pas?
Juste une intervention, en tout cas moi pour mes élèves, et puis pour d'autres professeurs, les parents de nos élèves ont connu la guerre, sont souvent partis de leur pays à cause de la guerre. Là, on va avoir aussi à gérer des histoires familiales, des non-dits aussi, hein, j'en parle régulièrement, la guerre d'Algérie et le non-dit dans les familles de mes élèves. Leurs parents sont partis à cause de la guerre d'Algérie, mais pour eux, c'est la guerre d'Algérie de décolonisation, et c'est pas les années noires, alors que leurs parents sont partis à cause des années noires. Donc, il va falloir aussi, voilà, je disais tout à l'heure, la guerre, va falloir expliquer la métaphore, ce que c'est.
Oui, parce que
demain,
dans la,
François Hollande dans la réunit du le Parlement
président, c'était
congrès,
pas, enfin, voilà, on n'a pas une déclaration de guerre, c'est autre chose, c'est...
Tout à fait, et c'est quoi l'état d'urgence, concrètement? Il faut être concret avec les élèves. Alors, il y a des attentats, c'est quoi? Est-ce qu'on peut tous être visés, oui ou non, etc. Et puis, l'état d'urgence, alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça permet, etc. Qu'est-ce que ça va changer pour nos quotidiens? Le Parlement est réuni en congrès demain à Versailles. Est-ce que ça a un seul impact sur quoi que ce soit? Le dire aux élèves, expliquer, parce qu'il va y avoir du discours médiatique, du discours politique, mais dire aux élèves, on va décortiquer tout ça et on va voir le réel, la réalité historique, les faits.
Ça, c'est bien le travail d'une enseignante. Libby Cousteau a une question.
Oui, j'ai une question pour les enseignants. Il me semble que ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on a vécu après Charlie, enfin ce que vous vivez surtout à l'école, fait écho à quelque chose de très structurant dans le débat sur l'école plus profond, en fait, qui est la porosité donc de l'école hein, au monde extérieur, à notre époque, etc., et qui est un vrai questionnement profond qui n'est pas heureusement, qui ne concerne pas que les attentats, qui concerne plein de petits événements mineurs, mais tout aussi marquants pour les élèves, et le complotisme en est un. Comment vous pensez devoir être formé? Qu'est-ce qui vous serait utile? Est-ce qu'il faut vraiment envoyer un message à la ministre et à l'Éducation nationale pour qu'elle s'occupe de ça, de ces questions qui rentrent? Bon, Jean-Sou racontait au Liban, j'aimerais savoir comment c'était possible que dans un pays en guerre, l'école soit protégée. Il y a peut-être alors, une solution.
On va déjà s'arrêter à la question de la formation. Vous attendez quelque chose aujourd'hui du ministère ou vous pensez avoir des ressources suffisantes?
Moi, je pense que ce serait bien qu'on nous fasse davantage mutualiser effectivement nos expériences parce que chacun de notre côté, on a quand même des idées. Depuis janvier, je fais plus mes cours de la même façon et je les ferai plus jamais de la même façon. Je choisis des textes littéraires parce que je n'abandonnerai jamais la littérature, mais par le détour de la littérature, j'aborde l'actualité. Mon chapitre 1 en troisième cette année, c'était « Histoire de migrants ».
J'ai commencé par la même chose cette année, voilà. En quatrième. J'ai complètement bouleversé mes projets, etc. J'ai dit, ok, on va travailler sur la mondialisation et les mobilités humaines.
Vous vous rendez compte de ce qui nous arrive en 2015, on ne fait plus cours de la même façon.
Oui, mais finalement,
on apprend les mêmes notions. Mais on se sert. Enfin, moi, la littérature, c'est mon arme à moi pour les faire réfléchir. C'est pas moi qui leur dis. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. J'attends que eux me disent ah, mais c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Mm-hmm. Je veux toujours que ça vienne d'eux. Et donc, c'est tout un processus à mettre en place.
Mais Aude de Lombarès, quelle ressource pour vous, par exemple? Quel texte?
Là, nous avons travaillé. Je suis complètement. Oui. Nous avons travaillé donc sur plusieurs textes de la littérature, Le Soleil d'Escorta, un texte sur le Liban avec Omar Jo et Joseph, L'enfant multiple de André Chédid, voilà des textes comme ça, un texte. Donc c'est seulement à la toute fin de cette séquence que les élèves font le lien avec les migrants dont on entend parler dans les médias. Ils disent « Ah, mais d'accord, à Ellis Island, c'était quand leur pays leur manquait, peut-être aujourd'hui, les gens qui quittent leur pays, ça leur manque aussi, comme le petit Omar Jo dans L'Enfant Multiple. » Puis une BD aussi, une BD qui est magnifique, qui s'appelle « Le bar du vieux français » de Stassen et Lapierre, que je recommande si on veut parler.
Ça peut aussi donner des idées, Julie Van Regam, en termes de ressources pédagogiques.
En termes de ressources pédagogiques, alors en histoire géo, le monde entier est une ressource pédagogique. Tous les médias, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est texte, tout ce qui est image, tout ce qui est histoire personnelle également peut faire source à partir du moment où on l'aborde en tant qu'historien ou que géographe. Ce qui compte, c'est qu'actuellement, peut-être que certains professeurs, et c'est peut-être une très bonne chose, sont en train de quitter le programme un petit peu linéaire, mais de garder les notions importantes à travailler et de décortiquer le réel dans lequel vivent les élèves. L'école, de ce fait-là, nous, en tant qu'enseignants, on essaye de vraiment de coller au réel et donc d'aider les élèves à appréhender la réalité, le monde d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça l'essentiel.
Après, cette année, ce qu'on a tenté, nous, c'est une expérience de philosophie. Alors, bien sûr, c'est modeste, hein, c'est une initiation au dialogue philosophique. Et là, on parle, c'est vraiment intéressant, de la peur, du rire. Voilà.
Et on terminera donc sur l'idée de dialogue. Le dialogue et l'écoute. Merci à tous pour cette émission très riche. Voilà, l'école a changé depuis le 7 janvier et on en est encore plus conscient depuis vendredi. Merci à tous. Merci à tous nos auditeurs, Olivia.
Merci mille fois à vous, Louise Touré. Un grand merci à vos invités de s'être aussi mobilisés à leur manière très rapidement pour être avec nous en direct aujourd'hui dans les studios de France Culture et nous aider à apporter des réponses à des questions que beaucoup se posent en cette veille de rouverture des classes, des écoles demain et des universités.